Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Boursier, et ce soir, pour la première fois, on a le plaisir de recevoir Daniel Gerino. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Arnaud. Oui.
Tu es le président de Carlton Sélection.
Tout à fait.
Tu étais du sort du club avec Guillaume Sommerer, hein, qui avait lieu de 17h à 17h35. Et ce soir, un peu particulier, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, on en a beaucoup parlé déjà à l'antenne, déjà aussi dans ce rendez-vous. Mais là, on va en parler de manière assez large. On va voir en quoi l'intelligence artificielle bouscule l'économie, les marchés, et à la fois la manière pour les gérants de portefeuille, etc., les sociétés de gestion, de bah, tout simplement gérer votre argent. Donc, Daniel, on va commencer par peut-être voir en quoi l'IA déjà bouscule l'économie d'une manière générale. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus pour commencer ?
Alors, beaucoup de choses, parce que, en fait, l'économie, globalement, la croissance économique, c'est ce vers quoi nous tendons tous. On essaie d'avoir le plus de croissance possible pour générer le plus de bénéfices et donc avoir des cours boursiers qui montent. Mmh. Qu'est-ce que c'est la croissance ? Ben, c'est tout simplement l'addition de l'augmentation de la population sur Terre et l'augmentation de la productivité. Bon, comme tu le sais, la population, on est 8 milliards sur Terre, on a tous les problèmes écologiques, de digestion, de la trace carbone sur la planète, qui sont compliqués à gérer. Et de l'autre côté, on a une productivité qui est en berne. La productivité, elle a monté d'à peu près 70% entre 1995 et aujourd'hui aux États-Unis, à peine 20% en Europe. Et quand on regarde cette productivité, elle chute, et très fortement, depuis 4-5 ans. Donc on voit que le moteur de la croissance mondiale va être très compliqué à continuer à se développer et propulser de la croissance, des résultats de société et donc des performances en bourse. Arrive l'intelligence artificielle. Et là, c'est juste quelque chose d'incroyable. En termes de timing, au moment où la productivité chute, l'intelligence artificielle arrive et crée des gains de productivité qui sont estimés à plus 1,5% par an. Ce qui est énorme. Ça veut dire, en gros, une croissance mondiale qui va être dopée. On estime que d'ici à 2030, l'intelligence artificielle va créer l'équivalent d'un pays comme les États-Unis en termes de PIB. Autrement dit, quelque chose comme 17 000 milliards de dollars.
C'est incroyable,
considérable.
Incroyable. Alors quand on voit ça, on a aussi, par exemple, Goldman Sachs, qui il y a quelques semaines a sorti une étude, qui, d'après cette étude, il y aura à peu près dans le monde 300 millions d'emplois qui seraient menacés par l'intelligence artificielle. Et pour en avoir pas mal parlé et discuté avec certains, il y a plusieurs façons de le voir. C'est-à-dire qu'on peut le voir négativement, comme on peut le voir aussi positivement, dans le sens où certains emplois peuvent être supprimés. Donc, dans un premier temps, c'est un problème. Mais dans un second temps, les gens dont les emplois sont supprimés peuvent potentiellement trouver un autre métier qui, dans certains cas, peut être moins pénible, plus efficace. Comment est-ce que toi, tu analyses ça ?
Ah ben moi, je l'analyse de façon très positive. C'est comme toutes les révolutions technologiques, industrielles. C'est un peu l'équivalent, si tu veux, à l'époque, quand on a créé l'automatisation des chaînes de production, le taylorisme. Eh bien, c'était le taylorisme de l'activité de l'économie manufacturière. On est en train de créer, non pas un taylorisme, mais une amélioration considérable de la productivité, non pas dans le secteur manufacturier, même s'il sera touché également, mais dans le secteur des services. Ça va être colossal. Alors oui, effectivement, il va y avoir des mutations. Clairement, nous, on pense qu'il devrait y avoir entre 13 et 15 millions d'emplois en solde négatif.
Alors tu parles à l'échelle mondiale ou
à l'échelle mondiale.
Ok.
14-15 millions d'emplois qui ne seront pas renouvelés. C'est-à-dire que des emplois vont être créés, des emplois vont disparaître, et le solde des deux devrait faire moins 15 millions. Alors, ça, ce sont des projections. Hein. Évidemment, les résultats réels seront sans doute très différents. Mais bon, dans l'état actuel des connaissances, on peut estimer que... Alors, qui va être touché ? Ben, essentiellement, les pays avancés. Assez peu les pays émergents. Pourquoi ? Parce que les pays émergents sont assez peu dans les services. Or, l'intelligence artificielle va surtout toucher les services. Voilà.
Plus on est dans les services, plus on va être touché, exposé par ça.
Exactement. Ouais. Et qui va être atteint par cette véritable révolution? C'est véritablement quelque chose d'explosif sur le plan mondial. Je pense qu'on ne réalise pas aujourd'hui l'impact que ça va avoir sur nos économies. En réalité, ça va être essentiellement le secteur du légal, c'est-à-dire tout ce qui est juridique, secteur administratif et le secteur informatique. Ça, c'est trois secteurs qui, je pense, vont vraiment souffrir. Par contre, il y a des secteurs qui vont en profiter, comme certains secteurs de la technologie, l'enseignement, mais on a plein d'autres secteurs, y compris dans la production, qui vont être touchés positivement par l'intelligence artificielle.
Mais même, même les secteurs que tu viens de citer, c'est-à-dire le légal, l'administration, et le troisième, c'était...
Et le troisième, c'est l'informatique.
Voilà, c'est ça. Et ben, je crois qu'il y en a, certaines personnes disent que même dans ces secteurs-là, quelque part, oui, ça va être ils vont être touchés, mais ils pourront être plus efficaces avec moins de bras, entre guillemets.
Moins de ressources.
Et de cerveau, de ressources, d'une manière générale. Et donc, que ce ne serait pas forcément négatif, parce que se séparer de certaines tâches un peu redondantes, bah quelque part, il serait plus productif et donc ce ne serait pas forcément un problème. Alors, ce n'est pas forcément ces secteurs-là, mais je sais qu'il y a Yannick Bolloré de Pour Vivendi qui, sur notre antenne, s'exprimait là-dessus, sur l'intelligence artificielle, et on lui demandait est-ce que ça vous inquiète. Et lui disait, bah non, pas forcément. Il disait un peu là ce que je viens de dire là, c'est que quelque part, lui pense que ça va aider les sociétés, certaines sociétés, à être tout simplement plus productives et donc ce n'est pas forcément un problème.
Alors ça, c'est indéniable que la plupart des sociétés vont être beaucoup plus productives. Néanmoins, par exemple, le secteur du legal, on a quand même énormément de choses qui peuvent être faites par l'intelligence artificielle. Hein. Des avocats d'affaires, ça risque d'être un peu compliqué. Ou on voit quand même que l'intelligence artificielle permet de trouver vraiment les failles, par exemple pour un étudiant qui cherche à comprendre un concept mathématique, un théorème ou un lemme. L'intelligence artificielle aura la faculté de trouver la faille dans le raisonnement et de pouvoir réaborder le concept, mais avec un angle différent. Si je n'arrive pas à rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Mais il faut arriver à contourner le problème, et ça, l'intelligence artificielle fait ça très bien. Donc je pense qu'il y aura des mutations dans ces trois domaines. Le secteur du legal va être sans doute vraiment, vraiment atteint. Alors, il y a peut-être le secteur de la santé, mais ce n'est pas pour autant que les emplois vont tous disparaître. Bien au contraire, les emplois vont changer. Le médecin ne sera peut-être plus là pour analyser une radio, pour analyser un scanner ou un IRM. La machine le fera très bien et le fait avec beaucoup moins d'erreurs. Par contre, le médecin établira la médication nécessaire et fera un peu le rôle aussi de la relation humaine avec le patient.
C'est ça, ouais.
C'est-à-dire qu'il disposera des informations, mais ce n'est pas lui qui va analyser une radio, une analyse médicale. De la même manière, c'est un peu comme la robotisation il y a quelque temps. Tout ça va aller en s'améliorant. L'intelligence artificielle va aider également les robots. Quand tu as une opération, si tu as une opération... Le bras du chirurgien, le poignet du chirurgien, il s'arrête là. Le robot, lui, il fait 360 ouais. degrés. Et donc, en réalité, moi, je pense vraiment que l'intelligence artificielle, il faut vraiment regarder ça de très, très, très sérieusement, parce que c'est une véritable révolution. Alors, évidemment, au début, il y aura des arnaques, il y aura des bulles,
bien sûr.
Il y aura de fausses sociétés intelligence artificielle, mais ça va dans le sens du progrès. Et il ne faut pas le négliger, parce que énormément de tâches redondantes, sans valeur ajoutée, vont pouvoir être faites par des process d'intelligence artificielle. Et on va libérer une créativité différente chez l'homme, qui sera peut-être plus dans le relationnel, qui sera peut-être plus dans l'accompagnement, et qui sera peut-être plus dans la réflexion de vers où veut-on aller, sans pour autant abandonner complètement la technologie, puisque... La technologie doit toujours être gérée, créée par l'homme. Il est hors de question de laisser notre sort à des machines. Mais ça va complètement révolutionner la façon dont on va travailler. Et même dans les marchés financiers, pour aborder après l'autre aspect, alors déjà, la productivité va donc fortement augmenter. Ce qui veut dire que la croissance mondiale, elle ne reposera plus simplement sur l'essor démographique. Et c'est un point important, puisqu'aujourd'hui, on se soucie de la planète, on est très nombreux à consommer, on veut toujours consommer, et je pense que là, on aura la possibilité de croître en termes de richesse, pas simplement sur l'augmentation de la population, mais sur l'augmentation de la productivité, et produire mieux.
Bah c'est ce que tu disais au début, c'est que malgré le fait que la population augmente, bah finalement, on produisait moins. Donc là, l'IA arrive au bon moment, entre guillemets. Oui. Voilà. Et pour parler un peu du monde réel, hein, comme tu le disais, donc on a vu a priori les impacts possibles et à venir sur l'économie, sur notre quotidien. Maintenant, on va aussi parler de votre argent, donc des marchés financiers et de la manière de gérer votre portefeuille, vous, en tant que gérant ou alors particulier. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change dans la gestion d'un portefeuille? Comment on fait pour s'exposer de manière correcte, à la fois prudente possible? Parce que tu l'as dit, il va y avoir des arnaques, il va y avoir des bulles, etc. Mais si on veut s'exposer à l'intelligence artificielle, comment on fait?
Alors, pour l'instant, les grosses sociétés, c'est-à-dire en gros les GAFAM, sont plutôt bien positionnés. Et la difficulté pour l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des petites sociétés qui peuvent générer une créativité en matière d'intelligence artificielle, parce qu'il faut des moyens considérables. On voit Microsoft, qui avait un moteur de recherche plutôt peu utilisé, Bing, depuis l'arrivée de ChatGPT, explosion des connexions sur Bing. Google, qui a raté sa démonstration, a perdu 8% en bourse. Dès qu'ils ont refait une présentation plus convaincante, modifié complètement leur système d'intelligence artificielle, la cotation, la capitalisation boursière de Alphabet a monté de 160 milliards de dollars.
Incroyable.
Je parle juste de l'écart.
Ouais. Mais comme quoi les investisseurs regardent ça de près.
Voilà. De très très près. Et là, ça change tout. Et 160 milliards de dollars, c'est juste la 67e capitalisation boursière mondiale.
Donc pour toi, ça peut être s'exposer au niveau des GAFAM. Donc,
voilà.
Tu,
mais pas que.
En ondes, juste pour finir sur les GAFAM, en ondes, tu
Ah bah alors, là clairement, y a Meta.
Ouais.
Juste dans le dernier, la dernière publication... La dernière présentation des résultats, Mark Zuckerberg a prononcé 68 fois intelligence artificielle. Et si on prend Microsoft, Alphabet, Meta, ils ont prononcé 170 fois le mot intelligence artificielle. Si là, on ne comprend pas, on ne comprendra jamais.
Donc ces trois-là, tu serais positif sur ces trois-là?
Sur ces trois-là, mais pas que. Okay.
D'accord.
Par exemple, 3C, qui est une société qui fait des logiciels d'intelligence artificielle, clairement, elle a déjà pas mal monté, mm-hmm. Micron, Nvidia. Alors, Nvidia, c'est assez amusant, parce que Nvidia, ça se termine par IA.
Ah, ouais. Bah voilà.
Donc, ils sont dedans.
Exactement.
Mais ils sont réellement dedans, hein. C'est pas que le gadget du mot.
Tu penses que ça compte?
Ils sont réellement dedans. Ben, c'est un peu un hasard, ça tombe bien. Mais Nvidia... Clairement, aujourd'hui, dans leur approche et dans leur prévision, l'intelligence artificielle occupe une place extrêmement importante. Et tout le secteur des semi-conducteurs.
Alors, c'est intéressant peut-être de rappeler ce que font les sociétés comme Micron, Nvidia, etc. Parce que là, du coup, ça fait plusieurs manières de s'exposer à l'intelligence artificielle. Il y a à la fois via les GAFAM, qui en font de manière directe, on va dire.
C'est le final.
Voilà. Et à la fois, ces sociétés-là qui sont dans les semi-conducteurs... Ouais. Qui eux vont être impactés, qui elles vont être impactées, mais de manière indirecte, par la croissance et la demande de l'IA. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être le phénomène? Pourquoi on aura besoin de plus de semi-conducteurs
pour expliquer parce un que peu l'intelligence artificielle a besoin de semi-conducteurs pour faire ses calculs. Et donc, il faut des semi-conducteurs qui soient sur des tailles très très petites et extrêmement puissants. Et aujourd'hui, à part TSMC,
ouais.
Qui est une société taïwanaise qui fait des semi-conducteurs de la taille la plus petite au monde, personne ne sait le faire en dehors d'eux. Donc ces sociétés-là, évidemment, elles sont cruciales pour l'intelligence artificielle. Mais pas que, il y a les logiciels aussi. 3C, ce sont des logiciels. Et donc, il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont s'agglomérer là-dessus, parce que c'est l'Eldorado de demain. On ne passera pas au travers. Le fait est lancé. Donc, il faut être sélectionné. Toutes les sociétés qui bénéficieront directement ou indirectement de l'apport de l'intelligence artificielle.
Donc directement les GAFAM qu'on a cités tout à l'heure, indirectement les semi-conducteurs, on peut reciter un peu NVIDIA.
Alors NVIDIA, il y a 3C, Micron, ouais. Il y a pas mal d'autres sociétés. Mais toutes ces sociétés-là, si vous prenez par exemple, si tu prends NVIDIA, ouais. NVIDIA, juste sur les 10 dernières années, c'est 8300% de performance. Si on prend un autre domaine, qui n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas se tromper de cheval. Il faut regarder l'avenir et pas vouloir lutter contre le progrès. On prend une société comme Enphase, j'en ai souvent parlé. Sur les 5 dernières années, ils font des panneaux solaires. Ils équipent complètement des maisons. Mm-hmm. En disant, voilà, vous avez une maison, vous avez besoin de davantage d'électricité parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de coupures d'électricité. Problème pour les congélateurs et autres. Donc, ils équipent entièrement la maison avec des générateurs, des transformateurs, des accumulateurs et des panneaux solaires. C'est une société qui est absolument florissante. Sur les 5 dernières années, le cours de bourse, on a parlé souvent à BFM, le cours de bourse, 3200% de hausse. Donc, c'est juste pour faire comprendre qu'on est sur des choses nouvelles. Alors, ce sont des données qui sont très importantes, hein, mais il faut être extrêmement prudent aussi. Il ne s'agit pas d'investir n'importe comment sous prétexte que, comme dans les années...
Toujours se diversifier, on ne le répétera jamais assez.
Voilà, et puis il faut être prudent. Hein, il faut bien analyser avant de choisir une société. Mais si l'on regarde, par exemple, à l'époque, dans les années 2000, hein, moi j'ai connu ça, les dot-com. Alors vous preniez n'importe quelle société, tu mettais dot-com derrière... Et ça marchait, sauf que une bulle et ça a plongé.
Bah là, on a un peu ça avec l'IA aussi en ce moment. Alors, mais...
Sauf qu'on a appris de cette période-là et je pense qu'on ne fera pas n'importe quoi. Ouais. Et donc, les sociétés qui se contenteront simplement de faire un ersatz d'intelligence artificielle, je pense que celles-ci passeront pas le cap et très rapidement.
Et tant mieux. Ouais.
Mais il y aura aussi d'autres sociétés qui bénéficieront de tous ces systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, les logiciels commerciaux, ça va être une révolution. Parce que les commerciaux vont pouvoir travailler de façon très efficace. On va améliorer, mais considérablement, l'efficacité. On prévoit, sur le S&P 500, grâce à l'intelligence artificielle, 30% de hausse du bénéfice des sociétés en général. 30% de hausse des bénéfices. C'est pas rien.
Même celles qui ne sont pas spécialement exposées à l'IA.
Certaines tomberont. Ouais. Mais celles qui se spécialiseront ou qui utiliseront l'IA, c'est un peu comme celles qui ont utilisé Internet, elles ont réussi. Celles qui ont dit oh, « ben non, moi, Internet, je ne veux pas l'utiliser », clairement, elles ont disparu.
Oui, parce qu'on n'a pas fait ces exemples de sociétés-là. Là, il nous reste 5 minutes à peu près. Donc, on a déjà bien basculé parcouru ce que ça va changer dans l'économie, ce que ça va changer pour notre quotidien, les prévisions qu'on peut faire, les secteurs qui l'utilisent directement, les secteurs qui vont en bénéficier de manière indirecte, mais aussi maintenant peut-être donner des exemples de sociétés s'il y en a qui devraient pas produire de l'IA mais utiliser l'IA et que ça devrait vraiment tirer vers le haut. Est-ce que tu as des exemples
Alors,
de sociétés, Daniel?
Par exemple, des sociétés qui vont sans doute utiliser l'IA, c'est des sociétés dans le secteur des biomédicales, des biotechnologies. L'intelligence artificielle va faire des bons sur ces sociétés. Il y a toutes les sociétés qui produisent des logiciels à destination de comptables, à destination de commerciaux, tous les process de production dans l'industrie. Mmh. Alors, c'est très difficile de le dire aujourd'hui, mais par exemple, un producteur, prenons le cas de ciment, pourrait améliorer tout son process de production. Un producteur de bioénergie pourrait améliorer tout son process de production. Des services qui seraient par exemple des services comptables pourraient améliorer considérablement leur service de production. Ça peut toucher, mais vraiment tous les secteurs.
Donc finalement, on peut vraiment rechercher et trouver vraiment des secteurs auxquels on ne pensait pas forcément au
début. Secteur de l'automobile.
Et voilà, ok, ouais.
équiper des véhicules. Quand vous regardez aujourd'hui, on a des navigateurs. Mais est-ce que le navigateur optimise le chemin en fonction de... Non. Aujourd'hui, clairement, on est tous dans les embouteillages.
Mais on y viendra.
Mais je pense que l'intelligence artificielle va permettre de dire à un grand nombre d'utilisateurs, pas simplement un utilisateur, de dire, attention, je vais orienter les automobilistes dans telle et telle direction de manière à fluidifier le réseau.
Parce que là, tu es en train de dire, pour l'instant, ça oriente tout le monde au même endroit.
À peu près. Voilà. Oui, ouais, parce qu'on optimise. C'est là, en fait, on est sur de la recherche opérationnelle. On n'est pas sur de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout pareil. Et quand on est sur de l'intelligence artificielle, la masse de données qui peut être traitée, ça n'a rien à voir avec la masse de données que l'on traite en recherche opérationnelle. De la même manière, au niveau commercial, on utilise beaucoup les analyses factorielles pour savoir quels sont les déterminants d'une campagne, etc. Mais c'est un peu du bricolage, parce que pour ceux qui ont un peu fait des maths, on analyse des valeurs propres, des vecteurs propres. Bon, on les interprète, c'est plus ou moins fiable. Là, ça ne sera plus le cas. On va taper juste. Donc, pour moi, c'est vraiment, on passe de l'âge de pierre à l'âge de fer. On passe d'un système qui était un système de production à l'unité, un système de production structurée, c'était le taylorisme, eh bien on arrive maintenant à un aboutissement et à un moment qui est formidable. Au moment où on est en panne de productivité, au moment où on a un souci en termes d'écologie, de trace carbone, d'affectation des ressources, de captation du CO2, tout ça par l'intelligence artificielle, ça va pouvoir être géré d'une manière beaucoup plus efficace que par le passé.
Donc plutôt positif, toi, Daniel. A priori, ça devrait pouvoir rendre le monde meilleur si on prend les meilleures applications de l'IA. Et pour finir, pour parler d'investissement, là, on parlait surtout des États-Unis, pas mal. Est-ce que on peut s'exposer à l'IA en France, avec des valeurs françaises ou européennes? C'est plus compliqué. Moi, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça plus compliqué. Est-ce qu'il y a des idées, voilà, pour jouer l'IA en France ou en Europe?
Objectivement, le jouer de façon indirecte, oui, de façon directe...
Très compliqué à ce stade.
Oui, oui, oui. Les capitaux ne sont pas suffisants. Et au niveau européen, il faut reconnaître que même si l'Europe a fait des efforts, elle a quand même amélioré les choses, mais on a toujours du retard. Et je pense que le vrai retard qu'on a pris, c'est en 1995, quand vraiment, moi, je me rappelle que les Américains lançaient Internet, les nouvelles technologies, les fibres qui traversaient l'Atlantique, on n'avait rien.
Donc on pâtit un peu de ça aujourd'hui.
Eh bien oui, on a pris beaucoup de retard. Par contre, ce qui est assez surprenant, on a les meilleures écoles et on a les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle.
Est-ce qu'ils restent?
Ben non, ils partent.
Ah voilà. Ouais.
Il faut savoir les attirer, les garder. On les forme très bien. Vous avez des écoles formidable, Polytechnique, ENSTA, etc. Vous avez des superbes écoles avec des ingénieurs formidables. Maintenant, il faut que la volonté politique se mette en place. C'est plus compliqué chez nous, parce qu'on est morcelé. Tous les États ne parlent pas les mêmes langues. Ça, c'est un handicap. Les États n'ont pas non plus les mêmes objectifs, n'ont pas le même degré d'évolution. Donc, les priorités ne sont pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle le politique au niveau européen, c'est compliqué, parce qu'il est obligé de tenir compte de l'Estonie et en même temps de l'Allemagne et de la France. Donc, tu vois, c'est compliqué.
Ben, on espère, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait des plus de géants européens qui pourraient avoir les moyens de se payer, entre guillemets, ces ingénieurs-là qui partent finalement pour des raisons de salaire et pour plein d'autres raisons aussi, pas que ça, mais voilà, pour pouvoir rivaliser avec ce qui se passe outre-Atlantique.
Il faut, Amaury, un point important, redonner de l'optimisme aux jeunes. Il faut leur redonner de l'optimisme et leur dire qu'en France et en Europe, on peut faire des choses top. Mais ça se cultive. Et on est trop souvent dans le pessimisme et pas assez dans l'optimisme. On fait des choses extraordinaires. Dans de nombreux pays, ils mettent essentiellement en avant ce qui marche. Nous, on a toujours tendance à mettre en avant ce qui ne marche pas. Parlons un peu de tout ce qu'on réussit, parce qu'on en réussit des choses. Et là, à ce moment-là, on va attirer... Un jeune, lui, ce qu'il veut, c'est de l'optimisme et des perspectives. Parce qu'il a toute sa vie à faire. Et si on lui donne cela, optimisme et perspectives, ben, il avancera, même si il sera peut-être un tout petit peu moins bien payé qu'aux États-Unis. Mais l'aspect, la composante salaire n'est pas n'est plus aussi importante que par le passé. Ouais, s'il s'inscrit dans une entreprise qui est optimiste, qui a la volonté d'entraîner des jeunes et de montrer qu'ils vont faire quelque chose de très utile pour la société, ça fonctionnera.
Et bah, c'est le mot de la fin, Daniel. Merci voilà, de finir sur cette note d'optimisme-là. Passionnant, plein d'explications sur l'IA, sur tout ce que ça va changer et des idées pour investir ou s'exposer de manière directe ou indirecte sur l'intelligence artificielle. Surtout prudence, on ne le répétera jamais assez, diversifier au maximum. Merci beaucoup Daniel Gérino d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es président de Carlton Sélection. On te revoit très vite sur BFM Business.
Avec grand plaisir.
C'était un plaisir de te recevoir ici ce soir. N'oubliez pas, posez-nous vos questions à bfmbourse@bfmbusiness.com.